vous avouer, 35 enterrements, en pensant un petit peu l'inhumation que j'ai apporté aussi, les messages, ça fait à peu près voilà, 70 messages, rien que sur le sujet de la mort. J'ai parlé quand même pas mal de messages sur la mort, pour consoler bien sûr la famille endeuillée. Et le message, la foi qui était le plus difficile pour moi d'apporter le message, c'est quand le défunt n'est pas chrétien. Quand le défunt n'est pas chrétien, consoler la famille, ça devient très difficile. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je parle tout simplement de l'espérance que nous avons. J'évite de parler sur le défunt. Parce que je me suis dit que... Et puis, je me dis, ce matin, je vais choisir ce matin le thème sur la vie après la mort. Puisque, à quoi ça sert de parler un message après que la personne soit décédée, hein? Le message la vie, sur la vie après la mort est important pour nous tous qui sont encore vivants. Et que nous pouvons encore préparer. C'est vrai, cette mort qui est devant nous. Nous ne pouvons pas contrôler, je dirais, la naissance, puisque c'est vraiment selon la grâce que nous, voilà, nous sommes nés, par la grâce. Mais et nous ne pouvons pas donc préparer la naissance, mais nous pouvons quand même préparer notre mort. Vous allez dire, peut-être, vous vous dites peut-être en ce moment, mais qu'est-ce qu'il a à choisir ce thème ? Hein, pour un culte en commun. Il aurait dû choisir un thème comme, je ne sais pas, unissons-nous sur le sujet comme, je ne sais pas, l'unité de l'Église. Voilà, nous avons un culte en commun, donc l'unité de l'Église, ou encore le corps du Christ, ou bien encore l'union fait la force. Hein, vous pourriez vous dire comme ça. Mais non, je me dis que... La vie après la mort, c'est quand même une réalité, et que c'est important de savoir aussi. D'ailleurs, c'est le message qui est le plus prêché pendant la période de réveil, parce que nous avons besoin d'être remotivés aussi, de se centrer à l'essentiel. C'est vrai que le monde, ou même je dirais le Satan, voudrait nous faire croire que le temps sur Terre est longue, et que l'éternité courte, mais ce n'est pas vrai. La vie ne dure pas longtemps, au contraire, c'est juste un instant. La vie est un souffle, elle est très courte, elle disparaît comme la rosée matinale. C'est ce que dit dans Jacques, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Avez-vous déjà observé le brouillard du matin? Il est si éphémère. Il s'évapore au soleil et disparaît avec le jour. Notre vie est semblable à cette vapeur matinale qui n'apparaît qu'un instant et puis s'évanouit. Notre vie, c'est comme ça. D'ailleurs, la Bible nous décrit l'enfer comme un endroit vraiment terrible. L'enfer a des caractéristiques suivantes, des ténèbres extérieures. C'est ce que dit la Bible, la parole de Dieu. C'est un lieu où il y a des pleurs. C'est un lieu où il y a des grincements de dents. C'est un lieu où il y a aussi un feu éternel. La condamnation, la souffrance liée à la colère de Dieu. C'est un lieu où il y a beaucoup de souffrance et douleur et qu'il ne faut pas y aller. Oui, ce matin, en vous parlant de cette réalité invisible, j'aimerais vous faire une piqûre de rappel. Que notre vie sur Terre n'est pas l'essentiel. Il faut savoir préparer la vie de l'au-delà. Et pour cela, j'aimerais vous partager la parole dans Luc, chapitre 16, versets 19 à 26. C'est l'histoire de d'un homme riche et le pauvre Lazare, que j'aimerais vous lire. C'est un texte bien connu. Luc, chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui a chaque jour mené joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent ?» Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Jusqu'ici notre lecture. C'est une belle histoire. Enfin, je ne sais pas si c'est une belle histoire. C'est une histoire qui nous interpelle et qui nous révèle un petit peu la vie après la mort. On voit ici deux personnages très intéressants. Tout d'abord, ce riche que Jésus décrit dans ce parabole. Il ne donne pas de nom. D'ailleurs, il n'a pas de nom, en tout cas, dans ce texte. Nous ne savons pas grand-chose de lui, sinon qu'il est riche. Même très riche. Très, très riche. Puisqu'il peut se revêtir de pourpre, de fin lin, de tissus précieux, qui étaient très chers à l'époque, et qu'il peut aussi inviter autour de sa table une foule nombreuse pour festoyer. Donc imaginez, hein, tous les jours c'était la fête. Hein, imaginez dans un village, voilà, vous êtes vraiment le plus riche du coin et vous invitez tous les jours vos voisins ou vos amis dans cette fête. Or, à l'époque de Jésus, un riche était considéré comme quelqu'un de bien. Il est devenu sûrement riche parce que Dieu l'a béni. Et donc, si Dieu l'a béni, il devait être un homme de bien. Un homme bien. Et puis, qui était ce riche? On peut encore deviner aussi qu'il était un des descendants d'Abraham, de la lignée d'Abraham, puisqu'il appelle Père Abraham. Hein? S'il n'était pas juif, il ne l'aurait pas appelé comme ça. On ne sait pas vraiment si c'était un homme respectable, admiré par ses compatriotes. On ne sait pas s'il a vraiment bien respecté la loi juive. On ne sait pas s'il a respecté toutes les fêtes juives. Par exemple, il se peut qu'il ait participé comme tous les juifs au jour de grand pardon pour demander pardon au Seigneur. Qui sait? En tout cas, on ne sait pas. Pourtant, dans cette histoire, on le retrouve après la mort, au séjour des morts. Voilà, Jésus ne le décrit pas s'il était méchant ou mauvais, mais le résultat, c'est que sûrement il devait être méchant. Et nous voyons aussi à travers cette histoire qu'il a quand même délaissé carrément ce pauvre sur sa porte. Et ensuite, on voit un deuxième personnage, c'est le pauvre Lazare. Il est à la porte du riche. Jésus décrit comme le pauvre Lazare. Lazare qui veut dire Dieu aide, Dieu soutient. C'est le diminutif de Éléazar. C'est le... Voilà, en plus il est malade. Non seulement il est pauvre, mais il est malade. D'après la parole, il a des ulcères. Donc comme avec cette maladie, il est considéré d'après la coutume de l'époque, et surtout par les juifs, qu'il était impur. Donc il ne fallait surtout pas le toucher. On peut faire de l'aumône, lancer des pièces, peut-être de loin, mais il ne fallait surtout pas le toucher. Et puis, lorsqu'on est impur comme ça, on ne pouvait pas justement aller au temple pour faire des cultes. Ce n'était pas possible. Un temple, c'était un lieu saint, pur. Les combles de misère, bien sûr, les chiens arrivent, un peu les animaux impurs, viennent le lécher. Ce pauvre Lazare est couché à la porte, il mendie devant la porte de ce riche pour survivre. Voilà un peu deux personnages intéressants. Alors quel est le contexte avant que Jésus raconte cette histoire? On voit un petit peu ce qui s'est passé. Jésus parle tout d'abord de préparer l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer, donc il faut préparer l'avenir. Et ensuite, il dit aussi qu'on ne peut pas servir l'argent et Dieu en même temps. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et ensuite, après avoir dit cela, il s'adresse aux pharisiens, au verset 14, en disant « Vous les pharisiens, vous entendez toutes ces paroles et vous vous moquez de moi. Puis vous aimez l'argent. Vous aimez l'argent. » C'est ce que dit Jésus à l'égard des pharisiens. Vous connaissez qui sont ces pharisiens à l'époque? Les pharisiens étaient des religieux qui étaient mis à part pour respecter la loi, pour parfois on les voyait jeûner, on les voyait prier à haute voix sur la rue, même dans la rue. On les voyait prêcher la parole de Dieu. C'est, si on considère un peu le pharisien aujourd'hui, c'est, je dirais, un pasteur comme François, qui aime l'argent. Non, je ne dis pas que François aime l'argent. Mais en tout cas, si on compare ce travail, ce pharisien, en général, tu sais, je prends l'exemple sur moi, hein, mais comme tu es là, voilà. c'est comme si, voilà, imaginez votre pasteur, François, qui aime l'argent. Qu'est-ce que vous allez penser? Imaginez votre pasteur à la plus grande maison, à la plus belle voiture, une Mercedes par exemple. Bon. Excusez-moi, j'ai une Mercedes. entre guillemets, reçue gratuitement quand même. voilà. Qu'est-ce que vous allez penser de votre pasteur s'il a autant de richesses? Et qu'il aime, qu'il recherche l'argent. En tout cas, le verset suivant, Jésus leur dit, « Vous êtes des gens qui se font passer pour justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » En fait, cette parole n'est pas adressée seulement au pasteur d'aujourd'hui. Cette parole est adressée aussi à nous tous. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes tous des sacrificateurs, n'est-ce pas? Le sacerdoce universel, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous pouvons rencontrer le Seigneur à tout moment. Et Dieu nous dit ce matin, vous êtes des gens qui se font passer pour justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, Dieu connaît mon cœur, ma disposition de cœur. Car ce que les hommes considèrent comme grand est détestable aux yeux de Dieu. Dieu connaît mon cœur. Il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde ce que moi je pense, de ce que je fais, de ce que je pense dans mon cœur. Quand je pense à tous ces pharisiens de l'époque, je crois que, à l'époque, vous savez, ça fait près de 400 ans qu'il n'y avait pas de prophète qui parlait au nom de Dieu. Et ces pharisiens étaient des bons, je dirais, entre guillemets, hommes de Dieu, prêchant la parole de Dieu. Sûrement, ils se croyaient bien faire. Ils étaient convaincus qu'ils étaient dans le droit chemin. Mais au fait, lorsqu'on regarde les remarques de Jésus, en fait, ils se trompaient. Ils servaient Dieu à leur manière. Ils avaient leurs propres critères, leur manière de croire et servir Dieu. Parfois, on devrait aussi réfléchir sur notre manière de servir Dieu. Hein? Nous avons parfois notre propre critère d'évaluation. On juge selon ma critère, selon ma pensée. On se dit que l'Église doit fonctionner de cette manière, doit être comme ci ou comme ça. Mes frères que je côtoie tous les jours devraient se comporter comme moi je pense. Parce que c'est le bon chemin, d'après mes expériences. Or, nous avons tout faux. Notre critère d'évaluation doit être la Bible. C'est ce que les pharisiens avaient oublié. Ils respectaient les rituels, mais ce n'était pas suffisant. Oui, nous ne devons pas croire Dieu selon mon propre expérience, mon propre discernement, mon propre jugement, mais toujours référé à la parole de Dieu. D'ailleurs, je vous avais déjà prêché il y a quelques dimanches en disant que, comme les Béréens dans les Actes 17, on devrait à chaque fois examiner tous les jours si la parole de François ou de vos prédicateurs, de vos pasteurs, est juste selon les Écritures. Il est dit que Béréens examinait tous les jours si ce que Paul disait, le grand apôtre Paul, disait était juste ou pas, selon les Écritures, selon la parole de Dieu. À l'époque, ils n'avaient pas le Nouveau Testament, ils n'avaient que l'Ancien Testament, mais ils pouvaient justement voir si cette parole révélée à Paul était juste. Les pharisiens se croyaient justes, c'est vrai, malheureusement. On revient à notre histoire avec ce riche et ce pauvre Lazare. Pour quelles raisons, donc, il était au séjour des morts? On peut deviner quelques raisons. Tout d'abord, l'indifférence. Ce riche était incapable de voir que ce pauvre Lazare était aussi un frère. D'ailleurs, son nom indique que Dieu l'aide, Dieu soutient. Et aussi que ce pauvre Lazare est un aimé de Dieu, malgré son apparence de maladie. Parce que c'est vrai, à l'époque, les gens qui étaient considérés comme impurs, lépreux, enfin, on les considérait comme impurs parce qu'ils étaient maudits. Enfin, il y avait plusieurs manières d'être impur. Vous savez, quand vous touchez un mort, là, vous devenez impur. Il fallait vraiment au moins 7 jours pour pouvoir se purifier. Il y avait plein de rituels comme ça. Mais s'il est malade et que s'il est pauvre, ça veut dire qu'il n'est pas béni de Dieu. C'est un maudit même. Il a dû faire quelque chose. On a parfois, on porte des jugements assez facilement. Or, l'apparence est trompeuse. Ce pauvre Lazare était un aimé de Dieu. Il a sûrement aussi des choses à se repentir, puisqu'on voit ça aussi à travers l'exemple de ses saints frères. En tout cas, ce que nous pouvons comprendre, c'est que ce riche juif respectait peut-être scrupuleusement la loi de Moïse, mais il n'avait pas du tout compris le vrai message de Dieu, l'amour du prochain. Il ne mettait pas en pratique justement la parole de Dieu. Une fois dans le séjour des morts, il souffre, il regrette, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Une fois que nous sommes dans le séjour des morts, c'est trop tard. Il souffre tellement qu'il demande à Lazare de tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour lui rafraîchir la langue. Il disait, car je souffre beaucoup dans ce feu. Après, Abraham, le père Abraham lui dit, il y a un grand abîme infranchissable entre ces deux mondes. Voilà, l'enfer nous montre combien notre péché est réellement abominable pour que ce soit aussi douloureux. Nous méritons tous des tourments éternels à cause de nos péchés. Et là, on peut bien sûr repenser à ce que Jésus a pu accomplir pour chacun d'entre nous. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Parce que c'était le seul moyen par lequel Dieu pouvait, de manière juste, de ne pas tous nous envoyer en enfer. Jésus a dû endurer toutes ces souffrances pour nous sauver, pour manifester son amour et sa miséricorde. J'aimerais vous lire à partir du verset 27. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes. Qui les écoutent ?» Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Ce riche demande d'envoyer Lazare, de le ressusciter, autrement dit, pour sauver ses frères. Peut-être il se dit qu'en voyant quelqu'un ressuscité, ils se repentiront. En écoutant le message d'un ressuscité, ils se repentiront. Et là, Jésus, à travers cette parole, est en train de dire que déjà Dieu a envoyé des prophètes, Moïse, les prophètes, la parole de Dieu, pour parler, pour révéler cette réalité invisible. Et s'ils ne l'écoutent pas, ils n'écouteront pas non plus le ressuscité. Comme si, voilà, aujourd'hui, imaginons que dans notre église, quelqu'un est mort, et qu'il est ressuscité par miracle, et que cette personne ressuscitée des morts parle de son expérience vécue dans le paradis et aussi dans l'enfer. Imaginons, les gens qui ne voudront pas croire ne croiront pas. Même si, médicalement parlant, on a déjà prouvé qu'il est bien ressuscité des morts, et qu'il a bien vu quelque chose, ils vont imaginer que voilà, ce n'est pas vraiment la réalité. Ce que nous pouvons ici comprendre, c'est qu'il souffre tellement, il aimerait vraiment quand même que lui qui était méchant voudrait que sa famille ne vienne pas. C'est pour ça qu'il demande d'envoyer Lazare pour sauver ses frères. Qu'en est-il d'annoncer l'évangile, nous, autour de nous? Si l'enfer est réel, si les gens qui ne croient pas en Jésus sont vraiment en danger, ils sont même prêts à passer toute leur éternité dans un lieu de souffrance, de douleur, où il y a des grincements de dents, je pense qu'il est vraiment important et urgent de proclamer au monde cette bonne nouvelle du pardon des péchés offerts par Jésus-Christ. D'après la parole de Dieu, il est dit, « Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père, sinon vous aurez-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Vous le croyez, cette parole ? Oui, il y a une réalité invisible qui nous attend après la mort. Est-ce que nous préparons vraiment notre mort, la vie après notre mort? Il est dit dans cette passage de Jean 14, Jésus prépare une place au ciel pour moi, pour vous. Il était charpentier sur terre, il est encore charpentier là-haut, en train de préparer une maison pour nous. Et le jour où ce sera, enfin en son temps, le Seigneur reviendra. Et nous pourrions justement le rejoindre de notre vivant s'il revient, si l'avènement se produit tout d'un coup. Ou on peut bien sûr aller le rejoindre après notre mort. En tout cas, je suis presque certain que dans 50 ans, nous serons presque tous là-haut. Non? Non? Ouais. Vous voulez vivre jusqu'à 120 ans? Eh ben. Oui, d'accord. Alors, dans 100 ans, alors. Hein? On tient à notre vie. Hein? Mais pour cela, pour rejoindre auprès de notre Seigneur, pour être dans la présence de Dieu, Dieu nous dit certaines choses. Voilà, ce riche, sûrement un bon juif, comme des bons juifs, il a dû respecter les traditions. Il a dû aller, comme aujourd'hui, si on le compare ce juif comme aujourd'hui, c'était un chrétien, puisqu'il était, il croyait à Abraham, le père Abraham, il croyait à la bénédiction, aux promesses de Dieu. Il croyait à tout cela. C'est comme si, voilà, les chrétiens qui connaissent l'évangile et respectant, par exemple, le dimanche, le jour de sabbat. Mais là, on voit bien que ce n'était pas suffisant. Il n'avait pas vraiment, vraiment compris l'essentiel, le message de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et d'ailleurs, ce chemin est périlleux, difficile même. Dans Matthieu 7, il est dit que entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Où est-ce que nous marchons? Sur quel chemin marchons-nous en ce moment? Est-ce que nous marchons sur des longs chemins, grands chemins où tout le monde passe? Ou nous choisissons, nous avons décidé de cheminer sur ce chemin difficile, étroit? Parce que oui, c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, Marc aussi, Marc chapitre 9 nous dit, celui qui fait tomber dans le péché un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer. C'est une parole sévère. En tant que chrétien, on peut aussi même décourager les autres à aller vers Dieu. C'est un gros péché, un grand péché même. Le verset suivant, si c'est à cause de ta main que tu tombes dans le péché, coupe-la, il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Voilà, on voit que Dieu décrit à travers ce passage combien ce lieu est... n'est pas conseillé d'y aller. Et affreux. Il est vraiment... Il y a tellement de souffrance. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main que de garder les deux mains. Là encore, d'autres passages, il vaut mieux enlever nos yeux pour ne pas pécher. Comme quoi, on voit vraiment la gravité du péché. Le péché est vraiment quelque chose de grave aux yeux de Dieu, puisque Dieu est saint, trois fois saint. Il est le saint des saints, parfaitement saint. J'aimerais conclure. La conclusion de cette parabole est une incitation à écouter Moïse et les prophètes au sujet de l'amour du prochain, au sujet aussi de l'amour de Dieu, et aussi au sujet de la vie dans l'au-delà. Il faut aussi préparer cette vie que nous allons rencontrer. Oui, comme je disais tout au début de ce message, la vie est éphémère, très courte. Je pense que les anciens vous diront, oui, la vie était très courte. J'ai 80 ans, mais voilà, la vie était très courte. Je vous avais dit que j'avais enterré à peu près 33 personnes en Alsace, et à chaque fois, leur conclusion était, la vie était courte, très éphémère. Le plus important, c'était croire en Dieu. J'aimerais aussi vous dire que la richesse n'est pas forcément un signe de la bénédiction de Dieu, mais cela ne veut pas dire qu'une malédiction, parce que c'est aussi utile pour servir Dieu. La pauvreté ne signifie pas non plus que le pauvre est loin de Dieu ou maudit. Quelle réalité cette parabole suppose-t-elle donc concernant le sort des défunts? On peut voir qu'il y a une certaine réalité invisible, l'existence personnelle qui continue après la mort. On avait dit cela. Le sort de chacun est fixé après la mort, sans attendre le jugement final. Certains connaîtront le bonheur après la mort, d'autres souffriront loin de Dieu. Et c'est dans cette vie d'aujourd'hui qu'il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix. Qu'est-ce que je choisis moi ce matin? Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je suis en train de choisir? Quelle vie je mène aujourd'hui? Est-ce que je suis en plein préparatif de cette vie après la mort? Et puis si je suis vraiment convaincu de cette réalité invisible, est-ce que j'ai de la compassion pour les gens qui ne connaissent pas cet évangile, ce trésor spirituel? Est-ce que j'annonce l'évangile à ma famille qui ne connaît pas Dieu? Voilà donc, c'est quelques réflexions que j'aimerais vous laisser. Que le Seigneur nous bénisse et à travers cette parabole, que nous puissions en tout cas réfléchir sur la vie dans l'au-delà et que le Seigneur nous, s'il doit nous reprendre, qu'il nous reprend. Si on doit se repentir, qu'on se repent. Et si on doit progresser, oui, on doit se progresser. De toute façon, quelqu'un disait toujours, qu'on ait 40 ans de ministère ou qu'on vienne juste croire, commencer la vie de foi, on est tous en chemin, on doit tous progresser jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne, en tout cas nous pousse à aller de l'avant pour que Dieu soit honoré par notre vie, qu'on apporte vraiment un bon témoignage qui touche les gens qui sont autour de nous. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur.